Chapitre 8. Flotte stellaire. Sir Lawrence Tsung n'était pas un sentimental et il était un trop grand voyageur pour prendre au sérieux le patriotisme. Encore que, lorsqu'il était tout jeune étudiant, il eût porté brièvement les nattes artificielles à la mode pendant la troisième révolution culturelle. Malgré tout, la reconstitution au planétarium de la catastrophe de Tien l'émut profondément et l'amena à consacrer à l'espace une grande partie de son énergie et de son influence considérable. Bientôt, il prit l'habitude de week-end sur la Lune et nomma son avant-dernier fils, Charles, l'enfant à 32 millions de sols, vice-président de Tsung Astrofret. La nouvelle société n'avait que deux fusées béliers à propulsion d'hydrogène, lancées par catapulte, mais elles suffiraient à apporter à Charles une expérience qui, Sir Lawrence en était certain, serait indispensable dans les décennies à venir. Enfin, enfin, l'ère spatiale allait réellement débuter. Un demi-siècle à peine avait séparé les frères Wright de l'ère du transport aérien bon marché et à la portée de tous. Il avait fallu deux fois plus de temps pour relever le défi infiniment plus grand du système solaire. Lorsque Luis Alvarez et son équipe avaient découvert la fusion muon catalysée dans les années 1950, elle était simplement apparue comme une amusante curiosité de laboratoire d'un intérêt purement théorique. Tout comme le grand Lord Rutherford avait ridiculisé les perspectives de la puissance atomique, Alvarez lui-même doutait que cette fusion nucléaire froide pût un jour avoir une importance pratique. Il fallut attendre 2040 pour que la fabrication accidentelle de composés muonium-hydrogène stable amène à tourner une nouvelle page de l'histoire humaine, exactement comme la découverte du neutron avait inauguré l'âge atomique. À présent, il était possible de construire de petites centrales nucléaires portatives avec un minimum de boucliers. Des investissements tellement énormes avaient déjà été consacrés à la fusion conventionnelle que les services internationaux de l'électricité ne furent d'abord pas perturbés, mais l'impact sur les voyages spatiaux fut immédiat. Une telle révolution n'était comparable qu'à celle du siècle précédent dans les transports aériens. Les vaisseaux spatiaux, n'étant plus énergétiquement limités, pouvaient atteindre des vitesses infiniment supérieures. Les temps de vol dans le système solaire allaient se mesurer en semaines plutôt qu'en mois ou même en années. Mais la propulsion muon demeurait un système à réaction, une fusée sophistiquée, pas très différente dans le principe de ses ancêtres à carburant chimique. Il lui fallait un liquide actif pour lui imprimer une poussée. Et le meilleur marché de tous les liquides actifs, le plus propre, le plus commode, était l'eau. Le Pacific Spaceport ne risquait pas de se trouver à court de cet utile carburant. Il en allait tout autrement à l'escale suivante, sur la Lune. Pas la moindre trace d'eau n'avait été découverte par les missions Surveyor, Apollo et Luna. Si jamais la Lune avait possédé une eau indigène, des millénaires de bombardements météoriques l'avaient fait bouillir et jaillir dans l'espace. C'était du moins ce que croyaient les sélénologues. Pourtant, des indices du contraire étaient visibles depuis que Galilée avait braqué son télescope sur la Lune. Quelques montagnes lunaires, pendant quelques heures après l'aube, étincellent comme si elles étaient couronnées de neige. L'exemple le plus connu est celui du magnifique cratère Aristarque que William Herschel, le père de l'astronomie moderne, vit briller si vivement dans la nuit lunaire qu'il jugea que ce devait être un volcan en activité. Il se trompait. Ce qu'il avait vu, c'était le clair de givre, condensé pendant les 300 heures d'obscurité glaciale. La découverte d'immenses dépôts de glace sous la vallée de Schroeter, la gorge sinueuse qui partait d'Aristarque, fut le dernier membre de l'équation qui allait révolutionner l'économie du vol spatial. La Lune pouvait devenir une station-service, exactement à l'endroit adéquat, très haut aux confins du champ de gravitation terrestre, au départ de la longue traversée vers les planètes. Cosmos, le premier vaisseau de la compagnie Tsung, fut conçu pour transporter du fret et des passagers sur la ligne Terre-Lune-Mars et, à la suite d'accords complexes avec plus d'une dizaine d'organisations et de gouvernements, utilisé pour expérimenter la propulsion muon. Construit au chantier spatial d'Imbrium, il avait une force de poussée juste suffisante pour décoller à vide de la Lune. Évoluant d'orbite en orbite, il ne toucherait plus jamais la surface d'aucun monde. Avec son sens habituel de la publicité, Sœur Laurence s'arrangea pour que le départ du voyage inaugural ait lieu le jour du centenaire de Spoutnik, le 4 octobre 2057. 2 ans plus tard, le vaisseau jumeau Galaxy vint s'ajouter à Cosmos. Conçu pour la liaison Terre-Jupiter, il pouvait opérer directement vers n'importe quel satellite jupitérien à condition de sacrifier considérablement la charge utile. En cas de besoin, il pouvait même retourner à son port lunaire pour réparation. C'était de loin le véhicule le plus rapide jamais conçu par l'homme. En consommant d'un coup la totalité de son combustible en un unique effort d'accélération, il était capable d'atteindre une vitesse de 1000 km/s, ce qui lui permettrait d'effectuer la liaison Terre-Jupiter en une semaine et de se rendre sur l'étoile la plus voisine en à peine plus de 10 000 ans. Le troisième vaisseau de la compagnie, l'Orgueil et la Joie de Sœur Laurence, tirait parti de toute l'expérience accumulée sur les deux premiers. Mais Univers n'avait pas une vocation de cargo. Il était destiné à devenir le premier paquebot stellaire sur les lignes spatiales jusqu'à Saturne, ce joyau du système solaire. Sœur Laurence projetait quelque chose de spectaculaire pour son voyage inaugural, mais les retards de la construction, dus à un conflit avec le syndicat réformé des routiers, avaient bouleversé l'agenda. On aurait tout juste le temps de procéder aux premiers essais en vol et de remplir les contrats d'assurance dans les derniers mois de 2060, avant qu'Univers quitte l'orbite terrestre pour son rendez-vous. Et il s'en faudrait de bien peu. La comète de Halley n'attendrait pas. Pas même pour Sœur Laurence Tsung.